n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Dans une semaine pile, à 7h, si RFI sera en édition spéciale pour vous dire qui sera à l'Élysée pour les 5 prochaines années. Les premières estimations de vote, les déclarations de l'une et de l'autre et les nombreuses réactions. Ce soir, nous sommes pile entre les deux tours. Voici Dimanche Politique.
Philippe Lecaplin.
Et le décryptage de cette campagne électorale, c'est avec vous, Frédéric Dabi. Bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes politologue, directeur général opinion de l'Institut de sondage IFOP. Et l'IFOP prévoit que ce sera qui à l'Élysée dimanche soir prochain ?
Alors, dans nos enquêtes, ce ne sont pas des prévisions, ce sont des rapports de force quotidiens IFOP fiduciales. On est sur un Emmanuel Macron avec une avance assez nette, 53,5. Alors, 53,5, c'est dans les purs traditionnels de beaucoup de second tour, hein, en 81, 95, en 2007. Mais quand on le ramène au nombre de voix, ça fait quand même 2,5 millions de voix d'avance pour le président sortant, même si on est sur un match quand même serré. En une semaine, beaucoup de choses peuvent se passer.
Et cette fameuse marge d'erreur, on l'a dit, de 2 à 3%, ce qui fait que ça amenuise et que ça les met à égalité.
Alors, pas tout à fait. Sur un 50%, et l'IFOP chaque jour interroge, plutôt produit des enquêtes auprès de 3000 personnes, ce qui réduit la marge d'erreur, on est sur une marge d'erreur de 1,6. Et donc, on n'est pas avec 53,5. Il y a même des confrères qui donnent 54 ou 55. Nous ne sommes pas dans la marge d'erreur. Mais ça reste un rapport de force qui n'est pas celui de 2002, hein, 82% pour Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen, qui n'est pas celui de 2017, Macron-Le Pen, c'était 66-34. On est sur un rapport de force très classique pour une campagne présidentielle d'entre-deux tours.
Est-ce que vous avez le sentiment, justement, que la campagne électorale a vraiment commencé, n'a commencé qu'au soir du premier tour?
Alors, je ne dirais pas comme ça de manière aussi abrupte, mais il y a du vrai là-dedans, puisque c'est vrai qu'Emmanuel Macron a été contraint d'une campagne très courte, il s'est déclaré plus tardivement que prévu. Beaucoup de Français ont regretté qu'il n'ait pas participé à des débats. C'était une campagne à bas bruit qui a clairement déplu, hein, aux Français, hein. 80% ont jugé dans une enquête IFOP fiduciale de mauvaise qualité. Et c'est vrai que là, c'est la finale, c'est la revanche. C'est la première revanche présidentielle depuis 81 et François Mitterrand face à Valéry Giscard d'Estaing. Et la campagne semble mobiliser davantage, même si la question qui se pose, c'est est-ce que les Français vont plus voter au second tour qu'au premier tour ? En 2017, ça n'avait pas été le cas.
Et pour l'instant, l'IFOP on observe quelle abstention ?
On est plutôt sur une abstention équivalente au premier tour.
25%.
Oui, ce qui n'est pas formidable parce que traditionnellement, et c'était le cas par exemple en 2002 pour Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac, il y avait un surplus de participation quand la droite extrême arrivait au pouvoir. Là aussi, ce schéma est balayé.
On dit que l'abstention pénalise plutôt le Rassemblement national que La République En Marche. Vous partagez cette analyse?
Quand elle est extrêmement forte, quand l'abstention, on l'avait vu aux élections régionales, quand elle dépasse 50-60%, elle assèche le vote RN. Là, ce qui est vrai, c'est qu'une abstention, on va parler sans doute du choix des insoumis d'être dans l'abstention et blanc et nul, ça peut être plutôt un appui pour Marine Le Pen, qui quantitativement pèse moins qu'Emmanuel Macron, notamment auprès de segments très mobilisés qui votent plus que la moyenne. Je fais référence aux personnes âgées de plus de 65 ans, aux catégories supérieures, à une France qui va bien.
Alors justement, quelle réserve de voix pour les candidats ? Celle de Éric Zemmour et de Nicolas Dupont-Aignan pour Marine Le Pen, celle des autres candidats pour Emmanuel Macron, globalement. Mais se pose la question de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième avec près de 22% des voix. Le candidat insoumis avait demandé à ses soutiens de donner, de partager leur choix. Qu'est-ce qu'il en ressort, Anthony Lattier ?
Seulement un tiers des soutiens de Jean-Luc Mélenchon iront mettre un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne dimanche prochain. Cette consultation reflète uniquement le choix des militants insoumis. Cela ne représente pas l'ensemble de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, mais cela permet de prendre la température de ses premiers soutiens. 215 000 se sont exprimés sur Internet. 33% font donc le choix du président candidat. 37% celui du vote blanc ou nul. 28% celui de l'abstention. Les résultats étaient à peu près similaires lors de la dernière présidentielle. Les militants n'avaient pas la possibilité de voter pour Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon l'a martelé dimanche soir dernier. Pas une voix ne doit aller à la candidate d'extrême droite. Mais Jean-Luc Mélenchon n'ira pas plus loin. Il n'appelle pas à voter pour Emmanuel Macron. Pas de consigne à qui que ce soit. Même si l'insoumise Mathilde Panot le précise ce matin dans la presse, entre Macron et Le Pen, les dangers ne sont pas de même nature. Elle espère que les électeurs ne se tromperont pas sur l'imposture sociale de la candidature de Marine Le Pen.
Alors ce vote Mélenchon que l'un et l'autre se disputent pour La République En Marche, Christophe Castaner disait ceci à midi sur l'antenne de BFM.
Ne pas choisir au moment présent, c'est accepter de jouer à la roulette russe. Et quelquefois, quand on joue à la roulette russe, on peut avoir le pire. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et ne négligeons pas le fait que Marine Le Pen, avec Éric Zemmour qui la soutient aujourd'hui, ne sont que les deux faces d'une même pièce, celle de l'extrême droite.
Frédéric Dabi, directeur général d'opinion de l'Institut de sondage IFOP. Anthony Latier le disait il y a de cela quelques instants, l'option Marine Le Pen n'était pas possible. Hein. Or, un tiers de l'électorat Mélenchon pourrait voter pour elle dimanche prochain ?
Non, c'est un petit peu moins dans nos enquêtes. On a plutôt un électeur Mélenchon sur cinq, ce qui n'est pas rien dans une logique d'extrapolation qui choisirait Marine Le Pen. Ce qui est intéressant, et ça a été dit par votre reporter, on a une consultation qui donne des résultats assez proches comparé à 2017. Alors même qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon avait été un petit peu ambigu, là il a été extrêmement clair. Sans déclarer un vote Macron, mais pas une voix, et il l'a répété à quatre reprises, urbi et orbi, si je puis dire, pas une voix pour l'extrême droite. Et on a un rapport de force auprès de l'électorat Mélenchon qui est assez net. Hein. Un électeur sur deux choisirait l'abstention ou un vote blanc et nul. N'oublions pas qu'en 2017, il y avait eu 4 millions de bulletins blancs et nuls. Un tiers choisirait Emmanuel Macron, ce n'est pas rien, mais c'est minoritaire, et 18-20% pour Marine Le Pen. Alors, c'est l'électorat principal, c'est le faiseur de roi, c'était le troisième, Jean-Luc Mélenchon, ça lui était jamais arrivé dans une présidentielle. Mais il y a un autre électorat, on en a parlé un petit peu, qui va compter, c'est cet électorat, entre guillemets, des 12 millions de Français abstentionnistes. Là se trouve le réservoir principal.
Et revenons à Mélenchon. La fondation Jean Jaurès hier, hein, qui est un centre de réflexion classé à gauche, publiait une étude. Il en ressort de cette note, rédigée par le directeur du département opinion de l'IFOP, votre collègue Jérôme Fourquet, son électorat, Jean-Luc Mélenchon, peut être comparé à un archipel, c'est-à-dire.
Oui, c'est vrai qu'on a eu un Jean-Luc Mélenchon attrape-tout. Ça, on l'avait vu dans les enquêtes préélectorales, quand bien même il a fait un score supérieur à ce qui lui avait été promis. Il a connu une dynamique très brutale de fin de campagne. Attrape-tout parce qu'il a fait des bons scores chez les jeunes, notamment dans cette logique de faire barrage à Marine Le Pen dès le premier tour. Il a réussi pour la première fois à limiter la percée de Marine Le Pen chez les ouvriers. Et puis, le côté archipel, c'est aussi cette dimension géographique où il a complètement bénéficié d'un vote utile jamais vu à gauche. Il arrive en tête dans de très nombreuses villes de gauche tenues par exemple par le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts. Et il a fait des scores qui n'étaient pas négligeables dans des villes moyennes.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. Alors l'événement des prochains jours, ce sera mercredi, à écouter d'ailleurs sur RFI, le fameux débat de l'entre-deux-tours. Depuis 1974, c'est devenu un exercice obligé, empreint d'une certaine dramaturgie, saupoudré de formules légendaires, comme « vous n'avez pas le monopole du cœur, mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre, moi président, etc. » Et à chaque fois, Frédéric Dabi, il y a un moment qui reviendra dans les zappings. Donc c'est vraiment c'est plus qu'une coutume républicaine.
Ah oui, ça fait partie maintenant du folklore présidentiel, de l'imaginaire présidentiel. Alors quand on regarde les enquêtes ante et post, avant et après, ça n'a jamais inversé une tendance. La plupart du temps, ça n'a jamais fait bouger significativement un rapport de force. Mais, Philippe, il y a une exception. C'est 2017, où le débat complètement raté de Marine Le Pen lui a fait connaître un vrai effondrement. Elle était à 59-41, 41% de l'attention de vote avant le débat. Elle finit la campagne à 33-34%. C'est vrai que c'est un débat qui a particulièrement compté de ce point de vue-là. Mais la règle, c'est quand même que ce débat n'inverse pas une tendance.
Alors on prend les mêmes, mais on ne recommence pas forcément de la même manière, car Marine Le Pen a tiré les leçons de son échec de 2017, et Emmanuel Macron doit, lui, défendre un bilan. Il n'est plus le jeune homme neuf, de 2017.
Oui, c'est vrai que c'est la revanche, la première revanche depuis 1981, et de la même manière qu'en 1981, Mitterrand et Giscard n'étaient plus les mêmes, ce ne sont pas les mêmes. Emmanuel Macron, maintenant, a un bilan que Marine Le Pen va essayer de décrire comme une sorte de passif ou un boulet. Marine Le Pen incarne pour beaucoup de Français le changement, le rapport de force n'est pas le même. Et c'est vrai que Marine Le Pen va se battre contre deux adversaires. Le premier, c'est Marine Le Pen elle-même. Est-ce qu'elle va définitivement enterrer la Marine Le Pen fébrile, pas crédible, se trompant dans les dossiers, faisant preuve d'un manque d'expertise de 2017? Et également, et ça c'est le principal enjeu pour elle, est-ce qu'elle va apparaître plus crédible qu'Emmanuel Macron? Parce que la question de la crédibilité est au cœur avec l'incarnation d'un second tour présidentiel.
Et le tout sauf Le Pen qui avait fonctionné en 2017, c'est moins vrai cette année.
Ah, c'est complètement moins vrai, ça se voit sur la participation qui ne va pas progresser sans doute entre le premier et le second tour. On le voit avec des hésitations de catégories sociodémographiques ou de segments politiques qui étaient dans un vote naturel anti-FNRN et qui ne le sont pas. Et c'est vrai, quand on interroge dans notre rolling IFOP fiduciale pour LCI les électeurs de Marine Le Pen, est-ce que c'est un vote d'adhésion ou un vote pour empêcher Emmanuel Macron de rester à l'Élysée? Le vote d'adhésion est majoritaire. Il est majoritaire dans l'électorat Macron et dans l'électorat Le Pen. Ça, c'est une nouveauté également.
Dans cette campagne électorale, l'un des thèmes qui peut rapporter des voix, c'est l'écologie. Le Parti écologiste a fait moins de 5%, peut-être parce que tous les partis parlent d'environnement, justement. Hier, en meeting à Marseille, Emmanuel Macron s'en est pris à son adversaire Marine Le Pen en voulant marquer sa différence en matière d'écologie, justement.
La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Le Premier ministre sera appuyé par 2 ministres forts. Le ministre de la planification énergétique aura pour mission de faire de la France la première grande nation à sortir du gaz, du pétrole et du charbon. Et
Emmanuel Macron a accusé Marine Le Pen d'être climato-sceptique. À la mi-journée, sur France 3, la candidate du RN a répondu ceci.
Je n'ai jamais été climato-sceptique. J'ai un projet qui précisément tient compte de l'environnement, tient compte de l'écologie. Je vois pas comment on peut être climato-sceptique quand on discute, par exemple, avec les vignerons, comme je l'ai fait à de très multiples reprises durant les 31 semaines de campagne que j'ai pu faire et qui nous expliquent que, évidemment, eux-mêmes constatent dans leur production agricole, dans leur vendange, qu'il y a un changement du climat.
Le vote, pour qui voteront les écologistes? En conscience, bien sûr, dans l'isoloir, en fonction certainement de ce que Julien Bayou aussi, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, disait ce matin sur France Info.
L'enjeu du 24 avril, c'est pas est-ce que Emmanuel Macron est crédible sur l'écologie? Bien sûr que non. Il avait 5 ans pour agir, il l'a pas fait. Il a été condamné pour inaction climatique. Donc il n'y a aucune raison de croire véritablement en ses promesses. Et pour autant, j'utiliserai le bulletin de Macron pour battre l'extrême droite. Je n'attends rien d'Emmanuel Macron, je ne lui demande rien. Mon vote et le vote des écologistes ne vaut pas quitus, ne vaut pas soutien. C'est le seul bulletin et je ne le fais pas pour lui, je le fais pour mon pays, pour la sauvegarde des libertés, pour protéger notre démocratie, parce que l'extrême droite est un danger.
Frédéric Dabi, le vote vert ne représente pas 5%, mais c'est 5% tout de même et dans un second tour, ça a du poids.
Oui, ce n'est pas rien, surtout qu'il y a beaucoup de Français qui avaient une vraie sensibilité environnementale, qui n'ont pas choisi le vote Europe Écologie Les Verts, qui ont choisi, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, qui, on vient de le dire, a profité d'un vote utile de tous les candidats de gauche. Alors, ce qui s'est quand même passé pendant cette campagne, c'est que la question environnementale et climatique, qui devait être majeure, a été un peu reléguée derrière la question du pouvoir d'achat. La fin du mois a un peu devancé la fin du monde, mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel Emmanuel Macron peut créer de la distinction par rapport à Marine Le Pen, mais, et ça a été dit par Julien Bayou, et c'est une perception que ressentent beaucoup de Français, on a le sentiment qu'il y a eu plutôt une inaction sur la question environnementale, et c'est un des rares aspects du bilan du président sortant, où les Français ont le sentiment que les choses ont peu avancé.
Et dans ces reports, dans la perspective du deuxième tour, il y a le vote syndical. Aujourd'hui, dans le journal du dimanche, les chefs des deux principales organisations, que sont la CGT et la CFDT, signent une tribune. Philippe Martinez et Laurent Berger estiment que Marine Le Pen et son parti, le RN, représentent un danger pour la démocratie et les droits des travailleurs. Olivier Roger, il est inhabituel que les frères ennemis du syndicalisme français s'expriment ainsi.
Ils s'opposent à longueur d'année dans les débats sociaux. Ils évitent aussi d'entrer de plein pied dans l'arène politique. Mais cette fois-ci, Philippe Martinez et Laurent Berger font cause commune. Craignant, je cite, le scénario catastrophe d'une victoire de Marine Le Pen, ils appellent dans une tribune co-signée à ne pas lui confier les clés de la démocratie. Pour les deux principaux leaders syndicaux français, le Rassemblement national est un danger pour les droits fondamentaux des citoyens et des travailleurs et ne peut pas être considéré comme les partis républicains. Philippe Martinez et Laurent Berger montrent aussi du doigt la menace que représente Marine Le Pen pour le contre-pouvoir syndical, pointant sa volonté d'affaiblir les syndicats, notamment, disent-ils, en favorisant l'émergence de corporations. Si les deux hommes surmontent ainsi leur rivalité, c'est parce qu'ils ont conscience que le vote Le Pen progresse aussi parmi leurs sympathisants. Ainsi, 22% des personnes se disant proches de la CGT ont voté pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle. Il n'était que 15% à le faire en 2017.
Frédéric David d'IFOP, un schéma simple voudrait penser que les syndicats sont à gauche et que leurs militants votent à gauche, sauf que le milieu ouvrier et les classes moyennes n'ont plus ce vote systématique.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand on regarde, Philippe, plus largement le salariat français, je rappellerai que Marine Le Pen est arrivée en tête. C'est la première fois qu'elle arrive en tête chez les salariés français, pas tout le salariat. Les cadres supérieurs ont voté, bien sûr, largement pour Emmanuel Macron. Donc, c'est un des rares segments où il y a une zone de frottement Le Pen, Macron. Et donc, oui, cette prise de position des patrons des deux principaux syndicats peut avoir du poids, même si on est quand même dans un contexte de désaffiliation, de désyndicalisation, j'y arrive. Et c'est vrai que ça, le poids que ça pouvait avoir par le passé, en 80, beaucoup de syndicats avaient appelé à voter pour François Mitterrand. Il est arrivé, pareil, en 2002 et même en 2017, mais qu'il y ait eu une tribune commune, là, c'était quelque chose d'inédit.
Et chiffre étonnant, cité par Olivier Roger, un militant de la CGT sur 4 voterait pour Marine Le Pen.
Tout à fait, ce n'est vraiment pas rien.
Le Parlement européen compte procéder au recouvrement des sommes indûment payées pendant son mandat d'eurodéputé à Marine Le Pen, annonce faite aujourd'hui, tout à l'heure, par un de ses responsables. La candidate du RN est accusée par l'Office européen de lutte anti-fraude de détournement d'argent public. L'affaire a été révélée par le site d'information Mediapart. Le parquet de Paris a confirmé avoir reçu le 11 mars le rapport de l'OLAF incriminant Marine Le Pen pour environ 140 000 euros d'argent public du Parlement européen quand elle y était élue de 2004 à 2017. Sur Europe 1, ce matin, le chef par intérim du RN, Jordan Bardella, dénonçait une instrumentalisation à quelques jours du second tour.
C'est un office qui est, contre lequel nous avons déposé plainte à deux reprises, qui donneront lieu évidemment à une troisième plainte. Et vous voyez, les Français ne seront pas dupes des tentatives de l'Union européenne et des institutions européennes pour s'ingérer dans la campagne présidentielle et nuire à Marine Le Pen. En tout cas, si vous voulez, l'ouverture d'une enquête à 4 jours du second tour où Marine Le Pen est donnée en capacité de l'emporter face à Emmanuel Macron ne laissera personne de marbre.
Sachant que 3 autres anciens députés européens sont également mis en cause par l'Office européen de lutte antifraude des députés RN. Il est vrai que la coïncidence des dates peut poser question, Frédéric Dabi, comme cela avait été le cas d'ailleurs concernant le fait que le cabinet McKinsey, qui a conseillé le gouvernement français au cours du quinquennat Macron, n'a pas payé d'impôts en France.
Oui, alors ces affaires, moi j'ai tendance à mettre à distance leur impact sur le vote parce qu'elles ne sont pas connues plus que ça. Celle-là, sur le Parlement européen, hein, elle a été mise en examen à Marine Le Pen en 2018, mais il n'y avait plus du tout de rebondissement. Et c'est vrai que ça va plutôt, à mon avis, renforcer ses soutiens sur le mode elle est aux portes du pouvoir et donc on cherche à lui nuire. D'une manière générale, ce ne sont pas les affaires qui font l'élection et notamment pour un second tour.
Au-delà des appels à voter, des reports, de voix, on vient d'en parler, c'est la stratégie politique des partis pour le tour d'après, c'est-à-dire pour les élections législatives qui auront lieu au mois de juin.
Oui, elles auront lieu même plus tard que ce qui était le cas en 2017. Il y aura 2 semaines de campagne de plus, 12 et 19 juin. C'est vrai que depuis 2002, depuis la fameuse inversion du calendrier électoral, ces élections législatives ont perdu toute autonomie. Elles confirment avec plus ou moins de force le résultat de la présidentielle, mais ça sera une élection capitale. Est-ce que les deux partis de gouvernement qui ont connu ces scores humiliants, le PS avec Anne Hidalgo et LR avec Valérie Pécresse, vont se refaire ou en tout cas limiter la casse? Est-ce qu'on aura comme en 2017 une vague de députés macronistes ou plutôt un peu comme en 88 après la victoire de François Mitterrand, un rapport de force beaucoup plus serré et quid des premiers pas législatifs, notamment du parti Reconquête? Il y aura aussi un vrai enjeu.
Reconquête, c'est Éric Zemmour.
Éric Zemmour, compte tenu de l'abstention qui sera sans doute forte, elle avait été majoritaire pour la première fois en 2017. Une abstention par exemple à 50% veut dire que le ticket d'entrée pour le second tour, en dehors de la première et la deuxième place, c'est 25%, dont l'intérêt, d'où plutôt l'intérêt pour la gauche à avoir des candidatures d'union sous peine d'avoir une gauche complètement éliminée du paysage législatif au soir du 19 juin.
Et en quelques mots, pour les écologistes, c'est pareil. Les écologistes toujours très forts dans des élections locales ou
européennes. Très, très difficilement pour eux aux élections législatives. Le scrutin majoritaire à deux tours a une vraie logique qui ne les favorise pas.
Merci Frédéric Dabi pour ces analyses et commentaires. Merci d'être passé par les studios des RFI alors que vous ne manquez pas d'activité et de clients avec donc les sondages que vous réalisez sur les intentions de vote pour l'IFOP dont vous êtes le directeur général opinion. C'était Dimanche politique réalisé par Fabrice Viollet. Merci d'être à l'écoute de RFI.